Bonjour à chacun. Ça fait bientôt maintenant presque 2 heures que j'ai fait la connaissance d'Ella. Et j'aimerais vous commencer par lire un texte dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, deux versets, les versets 18 et 19, qui disent ceci. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Bien, ce matin, nous venons de vivre ce passage de l'Écriture en baptisant Ella. Alors, vous n'avez peut-être pas bien entendu si vous étiez au bord de l'eau. Les paroles que j'ai prononcées, des questions que j'ai posées à Ella, ou alors vous n'avez pas pu vous déplacer au lac ce matin. Et je vais essayer de faire un bis repetita, c'est-à-dire que je vais redire devant tout le monde les questions que j'ai posées à Ella et j'aimerais lui proposer de faire la même chose que moi, c'est-à-dire de répondre à ses questions. Prête ? Donc il faudra parler bien fort. Hein. j'ai donc posé 5 questions à Ella concernant sa foi et la première était, est-ce que tu aimes Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toutes tes forces? Et tu m'as répondu, oui. Reconnais-tu personnellement avoir accepté Jésus-Christ comme sauveur de ta vie? Elle a aussi dit oui. Donc c'est la même chose, il n'y a pas de changement entre ce matin et maintenant. Lui as-tu demandé pardon pour tes péchés? Oui. As-tu fait de Jésus le Seigneur et le maître de ta vie? Oui. Et enfin, déclares-tu devant Dieu et devant les hommes que tu es sa disciple et que tu marches en nouveauté de vie, en conformité avec la parole de Dieu? Et tu m'as encore répondu oui. Et sur sa confession de foi, qui illustre ce qu'est une conversion, nous l'avons donc baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme l'évangile de Matthieu nous le propose. Les églises évangéliques ont 2 sacrements, qui sont le baptême que nous venons de vivre et la Sainte Cène. Alors, un sacrement, qu'est-ce que c'est? C'est un acte institué par Jésus-Christ lui-même qui se vit dans le cadre de l'Église et qui a pour but de recentrer notre vie sur Jésus. Ce matin, nous venons de vivre le premier sacrement avec Ella et vous l'avez entendu dans son témoignage, Ella s'est convertie progressivement, on va dire comme ça. Puis on pourrait se dire, mais est-ce que c'est suffisant pour vivre sa foi? Parce que finalement, elle avait tout à la maison. Pourquoi est-ce qu'elle a voulu se faire baptiser? Est-ce que ce plus est un besoin, une nécessité, une obligation? Eh bien, sachez que dans l'évangile de Matthieu, comme on l'a lu, mais aussi dans l'évangile de Marc, Jésus lui-même proclame que celui qui veut le suivre doit se repentir, avoir la foi, et ensuite se faire baptiser. On a lu le verset dans l'introduction de ce culte. Le baptême biblique est donc réservé à ceux qui ont préalablement cru en Jésus et qui se sont convertis, comme Ella. Et le baptême va être un pas suivant qui est évident. C'est une marque d'obéissance voulue par Jésus. En fait, c'est la première réalité, le premier pas d'obéissance de la vie d'un chrétien, c'est de se faire baptiser. On pourrait vraiment douter de la bonne foi d'un croyant si celui-ci refuse obstinément de se faire baptiser, puisque si on demande que Jésus soit le Seigneur et qu'on ne veut pas obéir à Jésus, il y a peut-être un problème à la base. Mais le baptême n'est pas simplement une marque d'obéissance, c'est aussi un événement rempli de joie. Et avoir son sourire, j'en doute pas. Et c'est vrai que ce matin, non seulement elle est heureuse, mais elle aimerait aussi vous faire partager sa joie. Et je vous encourage vraiment, après le culte, à l'entourer, à la féliciter, à l'encourager, à partager cette joie qui est en elle et qui aimerait être aussi déversée sur nous, les uns et les autres. J'aimerais peut-être faire une petite entorse. On est vraiment dans une cérémonie de baptême, mais j'aimerais faire une comparaison avec le mariage. Une personne peut se convertir toute seule, dans son coin, Personnellement, je me suis converti au bord du lac de Neuchâtel, tout seul. Ou avec la présence d'un ou deux témoins, des parents, des amis, des chrétiens. C'est la même chose pour un mariage civil. On n'a pas besoin d'être beaucoup. En fait, en Suisse, il suffit que d'être deux témoins, puis le mariage est fait. Et puis, il peut passer comme ça, dans l'anonymat, personne ne sait que deux personnes se sont mariées. Par contre, les jeunes mariés qui ont passé par le mariage civil désirent faire connaître leur bonheur à leur famille, à leurs amis, et ils vont les inviter en nombre en organisant une fête à l'église où Dieu va être invité à bénir cette union, où il y aura vraiment des choses qui vont se vivre. On va manger, on va danser, on va se réjouir, on va louer Dieu. C'est la fête. Ben, le baptême, c'est comme la cérémonie religieuse du mariage. On invite le maximum de personnes pour dire ce qui s'est passé dans notre vie, pour dire ce que Dieu a fait, ce que Dieu veut y faire. Et puis on partage ces moments de joie et de reconnaissance avec nos amis et notre famille. En d'autres termes, le baptême, c'est l'expression publique de la conversion, au même titre que le mariage religieux, c'est l'expression publique du mariage civil. Bon, quand on invite des gens à son baptême, on n'est peut-être pas forcément habitué à voir ce qu'on voit. Et c'est peut-être la première fois que vous assistez à un baptême évangélique et vous pouvez vous interroger sur les pratiques qu'on fait dans notre Église. Alors, sachez que le verbe « baptiser » que l'on trouve dans la Bible est toujours employé pour définir une action de plonger, d'immerger une personne dans l'eau. Et non pas simplement de verser quelques gouttes sur le front, comme on a l'habitude de voir. Et à la lecture de tous les textes du Nouveau Testament qui nous parlent de baptême, on constate qu'à chaque fois, les croyants étaient entièrement plongés dans l'eau. C'est ce que nous, Église évangélique, nous pratiquons. Et c'est important, cette dimension d'être entièrement plongé dans l'eau. Il y a quelques symboles que j'aimerais vous partager. D'abord, on va prendre trois symboles. D'abord, le premier, c'est que c'est dans l'eau. Et puis que l'eau, ça est censé nous laver. En tout cas, je pense que quand on se lave, c'est avec de l'eau. Maintenant, on a passé au gel hydroalcoolique. Mais habituellement, c'est quand même l'eau qui est plutôt le liquide le plus utilisé par nous pour se laver. Et c'est ce baptême où elle a été complètement plongée dans l'eau, c'est vraiment comme un bain où elle est lavée, symboliquement, hein, parce que ce n'est pas l'eau du lac qui va nous laver, on a bien compris. Hein. Laver de ses péchés, laver de sa vie sans Dieu, laver de ce qui était impur en elle, elle est de nouveau propre aux yeux de Dieu. Et puis, en disparaissant, parce qu'on l'a vraiment plongée jusqu'à ce qu'on ne la voie plus, eh bien, c'est comme si elle disparaissait à nos yeux, comme si elle était morte. Et cette mort, elle est importante aussi comme symbole pour dire que malgré tout ce qu'elle a pu vivre durant ces 18 années passées, avec sa famille, avec ses amis, quelque part, elle doit aussi reconnaître que c'était une vie sans Dieu, même s'il était en train de tourner autour d'elle ou elle autour de lui. Quelque part, il a fallu un moment où elle se décide pour le suivre. Mais avant ce moment, malgré le fait qu'elle soit dans une famille chrétienne, elle était morte. Elle a dû, quelque part, en donnant sa vie, entrer dans une nouvelle dimension, une nouvelle vie avec Jésus. Et c'est ce troisième symbole, parce qu'on ne l'a pas laissé dans l'eau. On l'a quand même relevé à un moment donné. On la voit de nouveau. C'est comme une résurrection, où une nouvelle vie l'attend, où quelque chose de neuf commence pour elle. Alors, bien sûr, c'est comme le mariage. On n'a pas attendu aujourd'hui pour quelque chose de neuf commence. Ça s'est vécu dans sa vie déjà quand elle s'est convertie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, elle le déclare publiquement. Et ça, c'est important. Parce que la foi ne doit pas être quelque chose de caché, de tellement intime que personne ne sait ce qui se passe, mais qu'on puisse oser la proclamer, et aujourd'hui, elle a proclamé vraiment en qui elle croyait, et je la remercie pour cela. Dans la Bible, il y a eu un moment où des choses extraordinaires se sont passées. Et ce jour, c'est le jour de la Pentecôte. Et à cette occasion, l'apôtre Pierre a pris la parole et a expliqué aux Juifs qui étaient autour de lui la bonne nouvelle de Jésus. Et on trouve cette histoire dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. Il n'y avait pas quelques personnes, il y avait des milliers de personnes qui écoutaient Pierre. Et ces personnes présentes, ces milliers de personnes présentes, elles ont été touchées jusqu'au plus profond de leur cœur par ce qu'ils entendaient. Et on trouve leur réaction verset 37 d'acte 2. Et je lis, « Après avoir entendu cela, ils eurent leur cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » D'entendre la parole de Dieu, d'entendre la bonne nouvelle de Dieu, il y a comme une réaction qui émane de notre cœur en disant « Mais j'aimerais faire quelque chose ». J'ai beaucoup aimé le témoignage d'Ella parce qu'elle dit « À un moment donné, mais elle se sentait au fond de son cœur dans cette dimension de dire « Mais j'aimerais plus ». J'aimerais vivre plus avec Dieu. Et un petit peu, c'est ce qui s'est passé. Et dans l'histoire qu'on lit dans la Bible, Pierre prend la parole et leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et je trouve intéressant parce que dans ce premier message d'évangélisation ou pour faire connaissance avec Jésus, eh bien, la réalité du baptême, elle était déjà contenue, elle était déjà présente dans les paroles de Pierre. Et je n'ai pas voulu faire le calcul parce que c'était peut-être un petit peu fastidieux, mais presque 2000 années plus tard, eh bien, c'est ce qu'elle a vécu. Et ce que la Bible dit, ce que la Bible proclame, des gens le vivent encore aujourd'hui. Et on ne veut pas voir la Bible vieux de 2000 ans comme un livre tellement vieux que finalement ben, ça n'a plus d'intérêt dans notre société qui bouge tout le temps. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce que la Bible dit ou a dit il y a 2000 ans, on le vit encore aujourd'hui. Et pour reprendre ce que Pierre a vécu, a prêché et ce qu'elle a vécu, eh bien, elle aussi s'est repentie de ses péchés, c'est-à-dire qu'elle s'en est séparée définitivement, qu'elle a demandé pardon à Jésus, elle nous l'a dit dans ses paroles que nous avons échangées, et par la foi, elle a accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur d'une façon personnelle, non plus d'une façon familiale. Des fois, c'est commun hein, d'avoir une foi familiale. Eh bien, elle a nous dit aujourd'hui que ça ne suffit pas, il faut une démarche personnelle, et nous sommes tout à fait d'accord avec elle. Et aujourd'hui, elle vient de se faire baptiser, et Dieu désire la remplir de son esprit. C'est merveilleux. Des fois, on dit « Seigneur, je ne te vois pas agir ». Eh bien, aujourd'hui, il y a plein de versets bibliques qui sont en train de vivre ici, à Bienne. Et moi, j'ai beaucoup apprécié son témoignage. Vous savez, j'ai écouté beaucoup de témoignages dans ma vie pastorale et je vois que les gens sont toujours très intéressés d'entendre des choses croustillantes lors des témoignages des baptisés. « Un tel a fait de la prison ». Wow ! Est-ce qu'on peut le toucher ? Un autre s'est drogué. Ah ouais ! Oh, moi jamais, mais, oh, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Un autre était voleur ou violent. Un autre était rempli d'occultisme dans sa vie. Et quand Jésus est entré dans la vie de ces personnes, eh bien, les choses ont été spectaculaires dans leur changement. Puis on ne les reconnaît plus. C'était noir, puis maintenant c'est blanc. Puis les gens... Ils cherchent ça. C'est un petit peu le cinéma de l'Église, ouais, sans entrer ni être péjoratif. On dit « Wow, qu'est-ce que tu as vécu, c'est génial !» Puis ensuite, il y a Ella qui arrive. « Bonjour, voilà, moi je suis né dans une famille chrétienne, j'ai pas fait de prison, je ne suis pas drogué, j'ai pas volé, je suis pas violente, je suis une gentille fille, puis je me suis converti. » Et puis les gens disent « Bon, pff, mais c'est fade son témoignage, il n'y a rien. » Et bien, j'aimerais rectifier quelque chose qui était totalement faux, puis qu'on croit, pas parce qu'on est influencé par le cinéma américain. Vous savez, un enfant de chrétien qui a toujours vécu dans la foi et qui, de par l'éducation de ses parents, a su garder précieusement au fil des années des valeurs importantes, des valeurs bibliques, qui a préservé sa vie de faux pas ou de péchés notoires, eh ben, c'est aussi important. Cette personne a autant besoin de réaliser qu'elle est perdue et qu'elle a besoin de Jésus, qu'elle est éloignée de Dieu et qu'elle a besoin de se convertir. Et je dirais, c'est même plus difficile aux enfants de chrétiens de faire le déclic en disant « La foi de ma famille ne me suffit pas, même si je suis né entre deux pages de Bible, même si j'ai toujours vécu en train de prier et de chanter les louanges de Dieu, même si tous les dimanches je vais au culte, même si à tous les repas je prie, quelque part, il me manque quelque chose. » Et parfois, on oublie que c'est aussi un miracle de voir que les gens, ils comprennent que ce n'est pas à cause de leurs actions, bonnes ou mauvaises, qu'ils sont éloignés de Dieu, mais c'est parce que le péché les a séparés de Dieu. Et un enfant qui naît dans une famille chrétienne est un enfant pécheur. Et il a besoin de trouver grâce auprès de Dieu. Et je pense que c'est parfois plus difficile aux enfants de chrétiens de se convertir qu'à des gens qui ont fait les 400 coups. Le problème, c'est qu'on est plus intéressé par le témoignage de ceux qui ont fait les 400 coups. Puis on dit, ah, oh, c'est bien là, toi aussi t'es gentil, c'est bien, toi aussi t'es... Mais non, moi j'aimerais vraiment te dire bravo. C'est moins spectaculaire, mais quel miracle. Et j'aimerais vraiment te remercier pour ce témoignage. Et je vous profite, je ne sais pas si on le fait vraiment, si c'est l'occasion, mais de l'applaudir pour sa foi. Ça va, tu es toujours avec nous, Ella? Je vous ai parlé de deux sacrements. Le baptême, on l'a vu. Laissez-moi vous parler du deuxième, qui est la scène. La scène, c'est aussi un moment de fête. C'est un sacrement aussi de l'Église évangélique. C'est un moment de fête pour le chrétien. Elle nous rappelle que Jésus est mort pour nos péchés à la croix, qu'il nous a pardonnés et que nous pouvons vivre en conformité avec sa parole. On est de nouvelles créatures et ici, à ma gauche, à ma droite, il y a la scène, le repas du Seigneur sur ces deux éléments. En fait, et c'est là où je trouve intéressant de relier ces deux sacrements, c'est que la scène, c'est le rappel hebdomadaire de ce que nous avons témoigné le jour de notre baptême. Finalement, c'est comme si on redit ces vœux de baptême à chaque fois qu'on prend la scène. J'ai quelques années de mariage. Eh bien, quand j'ai eu 30 ans de mariage, il y a déjà quelques années, j'ai invité tous mes amis, 30, très symbolique, et ma femme et moi, nous avons relu les promesses que nous avions faites le jour de notre mariage. Je vous promets, j'étais encore plus ému que maintenant de vous le raconter, parce que ça nous a touché. Et puis on s'est dit, oui, je garde toujours le cap, ce que j'ai dit, je le vis toujours, encore maintenant, encore aujourd'hui. Et elle le vit toujours, encore aujourd'hui, encore maintenant. Et je trouve que c'est beau. Alors, ce n'est pas pour parler de moi, hein, vous n'êtes pas venu ici pour entendre, mais pour comprendre que quand on prend la scène, eh bien, c'est comme si on se rappelle ce qu'on a dit à Jésus quand on s'est converti, quand on a témoigné le jour de son baptême. Laissez-moi vous faire une sorte de prière qui voudrait un petit peu relier le baptême avec la scène. C'est comme si je dis à Jésus, « Seigneur, l'alliance que j'ai faite avec toi, ma conversion, et le jour de mon baptême, elle est toujours d'actualité. » Quand je prends la scène, c'est ça aussi que je veux dire. « Et je continue à marcher dans tes voies. Je n'ai pas à rougir de ma vie devant toi. Et si j'ai chuté, si le péché a de nouveau fait des ravages dans ma vie, eh bien justement la scène, c'est l'occasion pour moi de faire le point, de m'arrêter dans mes délires et de me dire, Seigneur, je reviens à toi. Je veux revenir vers toi. Je veux retrouver ces paroles, ces promesses que je t'ai faites le jour de mon baptême. Et je veux repartir libéré et pardonné. C'est aussi ça la scène. Et en ce sens, c'est une fête. Ça nous permet de repartir avec Jésus, la main dans la main, sans avoir peur de quoi que ce soit. Et finalement, le baptême d'Élas, c'est pour nous l'occasion aussi de faire le point sur notre vie et puis de s'interroger. Comme dans les mariages, puisque j'ai pris cette comparaison avec les mariages, quand on prêche dans les mariages, eh bien on ne prêche pas simplement aux deux personnes qui se marient, et on prêche d'abord pour eux, mais on prêche aussi pour tous les couples qui ont un mois ou 50 ans de mariage, parce que les paroles de Dieu ont toujours cette même efficacité. Et on est aussi concerné par ce qui se passe. J'aimerais vous rendre non pas simplement spectateur, mais participant à ce baptême d'Ella, en vous disant, vous qui vous êtes fait déjà baptisé, c'est aussi intéressant de vivre ce temps de scène qu'on vivra après dans la joie, parce que c'est une fête aussi. Mais aussi avec tout le sérieux que cela comporte. Notre Dieu est un Dieu saint, et c'est à quoi nous sommes appelés, à être saints. Et je vous propose de vous examiner vous-même pour savoir si vous avez besoin de revenir à Dieu, si c'est nécessaire. Alors, ce n'est pas tout à fait les questions que j'ai posées à Ella, parce que c'était pour elle, mais posez-vous les questions pour votre vie. En disant, mais est-ce que Seigneur, je suis prêt à prendre la scène et à proclamer que je suis vraiment cet enfant de Dieu que je dis être. Et puis pour ceux, peut-être parmi vous, qui êtes chrétiens mais qui n'êtes pas encore baptisés, j'espère qu'Ella vous a donné envie de vivre ce qu'elle est en train de vivre. Parce que si le baptême c'est un acte d'obéissance, c'est aussi un acte de joie. Un acte de fête avec les familles, avec les amis qu'on invite. Et si c'est votre cas, voyez avec les responsables de l'Église, et puis comme elle a, vous suivrez quelques soirées de 6h30 à 9h30 de préparation en vue de ce futur baptême. Et puis si vous êtes fatigué, eh bien, allez lui demander les quelques médicaments qui lui restent. Parce que peut-être vous n'avez pas non plus beaucoup de fer dans votre corps. Puis ceux qui sont peut-être là pour la première fois et qui découvrent ce qu'est une église évangélique ou ce que c'est le baptême, je vous encourage aussi à trouver le chemin de la croix comme elle l'a trouvé, et puis aussi de donner votre vie à Jésus. Comment ? Eh bien, c'est là où elle intervient. Allez vers elle. Vraiment. Aller vers elle, pas seulement pour la féliciter, mais pour dire, Ella, j'aimerais que tu m'expliques mieux ton cheminement avec Jésus. Et puis avec ses mots, elle va vous expliquer ce qu'elle a vécu, et peut-être, Bible en main, lire quelques versets qui l'ont touchée, et puis vous aider à entrer dans un processus de rencontrer le Dieu créateur. Et si elle est là, c'est justement plus pour rester une personne timide, cachée, et dans son coin, mais elle est là pour prendre de l'importance. Elle fait partie de la famille de Dieu et elle a sa place. Et déjà aujourd'hui, je vous propose d'aller la trouver, si c'est votre cas, pour pouvoir lui demander des explications sur ce que nous avons vécu aujourd'hui. Tu es d'accord ? Elle a dit « bien sûr ». J'aimerais prendre un dernier texte avec vous en guise de conclusion. C'est Philippiens 3, les versets 12 à 14, et je veux le lire dans la Bible en français courant, qui nous permet de comprendre un petit peu mieux ce texte. Et j'aimerais, d'une façon tout à fait intéressée, glisser Ella dans ces versets. Et voici ce que la Bible dit, « Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but, ou être déjà devenu parfait. D'accord ? Mais je poursuis ma course pour m'efforcer d'en saisir le prix, car j'ai été moi-même saisi par Jésus-Christ. Non, frère, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix, mais je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière moi et je m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. Voilà ce que l'apôtre Paul disait aux chrétiens de Philippe et à ce que le Seigneur dit à Ella et à chacun de nous aujourd'hui. C'est le baptême, ce n'est pas une finalité de notre vie. On n'a pas réussi notre vie chrétienne parce qu'on s'est fait baptiser. Dans le livre des Actes que j'ai lu, le premier jour où ils s'est converti, ils étaient déjà baptisés. Donc ce n'est pas une finalité. Mais c'est un départ dans la vie chrétienne. Un départ d'une vie pleine de défis, pleine de victoires et pleine de joie avec Jésus. C'est ce que je souhaite à Ella, mais aussi c'est ce que je souhaite à chacun de vous. Amen. Je vous propose de prier. Seigneur, ce que nous venons de vivre aujourd'hui au lac ou à l'église, c'est quand même quelque chose de dérangeant. On n'est pas habitué. Il y a des questions qui sont posées, il y a des interrogations qui sont là. Pourtant, nous sommes présents et nous voulons te dire que nous acceptons d'être dérangés par toi. Nous acceptons d'être mis à nu. Nous acceptons que tu prennes de la place dans nos vies. Pas un peu de place, mais toute la place. Et nous aimerions te remercier pour ce témoignage de la vie d'Ella, pour ce qu'elle nous a non seulement partagé, mais fait comprendre avec ses émotions. Et nous te demandons, Jésus, que non seulement elle puisse être un modèle là où elle se trouve, mais que nous aussi, nous puissions être des modèles, que nous aussi, nous puissions être sérieux avec toi, comme Ella l'est aujourd'hui avec toi. Nous te bénissons pour elle, nous te remercions parce que tu as un plan pour chacun de nous, comme tu l'as pour Ella. Et nous ouvrons notre cœur, nous ouvrons notre intelligence, nous ouvrons nos émotions et nous te disons, mais prends toute la place, Seigneur, dans nos vies. Amen.